Bonjour à tous. J'espère que vous tenez le coup avec ces quelques derniers jours où la chaleur est remontée dans notre région. Voilà, je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu ce matin et nous allons poursuivre aujourd'hui notre série qui a été, voilà, durant les quelques semaines un peu entrecoupée avec les baptêmes et d'autres prédications, mais sur la vie de l'Esprit dans l'Église. Dans les messages que nous avons eus précédemment, on a vu trois messages sur le sujet. La première chose, c'était que l'Église est sainte et que l'Église est vivante parce que c'est le Saint-Esprit qui la construit et qui la sanctifie. On a vu ensuite la différence qu'il peut y avoir entre le culte personnel que chacun de nous peut avoir et le culte communautaire, et que pour bien vivre l'Église locale, il faut avoir une vie personnelle avec Dieu chez soi. Sinon, le culte communautaire devient une béquille et l'Église, ce n'est pas quelque chose qui vient quelque part compenser notre manque de relation avec Dieu personnel à la maison. Et du coup, voilà, je vous encourageais et on s'encourageait, les frères et sœurs, qu'on puisse chacun être discipliné pour vivre des temps de communion, en tout cas de communion tous ensemble beaucoup plus fort. Et cela passe du coup seul devant Dieu, devant sa face, seul dans sa chambre. Et puis le dernier point, c'était les dons spirituels qui sont donnés pour servir le corps et pas pour se mettre en avant, qui doivent s'exercer dans l'amour et l'humilité, deux éléments clés finalement qui définissent tous les dons. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a déjà abordé il y a quelque temps et qui correspond aussi du coup à la vie de l'esprit dans l'Église, un sujet qui est souvent mal compris, mal enseigné, voire des fois pas du tout enseigné, ou voire mal vécu. Et j'ai intitulé mon message, le parler en langue, don spirituel ou source de confusion. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, on avait fait une immersion sur la parole, sur le sujet, donc voilà, il n'y aura rien de nouveau, mais je trouve que c'est important de pouvoir reparler de cela, puisque on n'efface pas 30, 40 ans de tradition que l'on peut avoir en une fois, et ça permet de replacer quelque part les éléments de ce que la Bible dit, en fonction de comment nous vivons les choses. Durant les premiers siècles, plutôt même depuis les premiers siècles de l'Église, de l'histoire de l'Église, le parler en langue a souvent été source de blessures, de divisions parmi les chrétiens. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours été le cas. D'ailleurs, Paul, c'est pour cela qu'il écrit trois chapitres, même plus, concernant ce sujet. Parce que déjà, dans les églises de l'époque, l'église de Corinthe en particulier, ce don, du coup, n'était pas bien vécu. Et du coup, il va remettre les choses en perspective. Et ça a creusé souvent des fossés entre ceux qui y croient, ou parler en langue, ceux qui en doutent, au point que parfois même on a créé des dénominations qui se sont, des églises du coup se sont séparées suite à ce sujet. Et sur cette question, il y a eu beaucoup de blessures en tout cas, et pour moi les torts sont partagés. Parce qu'une église, quand je dis église, c'est avec un grand E qui se sépare sur des sujets comme cela, elle n'est pas remplie de l'esprit, que ce soit de la part de ceux qui parlent en langue, mais aussi de la part de ceux qui nient tout cela. Il y a un manque d'amour. Un manque en tout cas ici de désir de comprendre l'autre, et ce n'est clairement pas en tout cas ce que l'Esprit Saint désire pour son Église, qui doit être un corps uni, en paix, et édifié ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec cela? Et ces divisions, quelque part, nous rappellent à revenir à un regard, voilà, biblique, humble surtout et éclairé, pour comprendre quel est ce don et sa place dans la vie de l'Église. Et du coup, je voulais commencer par cette question. Pourquoi le parler en langue suscite-t-il, du coup, selon vous, autant de débats dans nos églises? Est-ce que vous avez des idées? Oui, personne ne veut se prononcer parce qu'il a peur de se faire. David, ah, il est courageux, David. Tout à fait, tout à fait. Oui, t'as bien raison. Et on a vu il y a quelques semaines, même quelques mois déjà, ce que c'est le baptême du Saint-Esprit, et qu'il peut y avoir un lien d'ailleurs, mais que le baptême du Saint-Esprit, quelque part, c'est la nouvelle naissance. Le chrétien qui est animé du coup de l'Esprit Saint qui le remplit complètement et qui lui permet de renoncer à tout pour suivre le Maître. Mais bien souvent, on a fait un lien qui peut exister, mais qui n'était pas automatique, qui n'est pas d'ailleurs même tout à fait systématique. Et c'est là-dessus, en tout cas, que la confusion peut démarrer. Alors, il peut y avoir aussi d'autres points. Hein. J'en ai cité quelques-uns. Ça peut être aussi la peur. La peur aussi envers ceux qui parlent en langue. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Aussi par rapport à des abus. Et peut-être que vous en avez vécu, des abus passés. des personnes qui peut-être parlent en langue et qui abusent de cela pour faire passer leur message à eux plutôt que ce que Dieu met sur leur cœur. Ça peut être l'ignorance. Ça peut être aussi dans l'autre côté quand on confond manifestation spirituelle et maturité spirituelle. Et ça va être un peu peut-être voilà, j'ai hésité entre deux titres, j'aurais pu prendre ce titre, puisque Paul, il va rappeler la maturité. Qu'est-ce que c'est la maturité du chrétien? Et en tout cas, ce n'est pas le parler en langue. Est-ce que je pense quelque part que ceux qui parlent en langue sont plus proches de Dieu que ceux qui ne parlent pas en langue? Et là-dessus, du coup, je me place en porte-à-faux de ce que la Bible prononce ou annonce. Ou est-ce que je crois même que ce don est réservé à des super chrétiens, entre guillemets? Et ce matin, nous allons voir quelque part mettre à plat tout cela et voir ce que la Bible, en tout cas, en dit. Je vous propose de prier. Merci Père encore, mon Dieu, pour ta parole et merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui l'as inspirée. Tu viens nous reprendre, mon Dieu, et cette parole est un glaive qui tranche dans nos manières de faire, nos traditions, nos manières de penser. Nous voulons, mon Dieu, soumettre nos expériences, nos traditions à la lumière de ta parole. Pour rappeler qu'elle seule, mon Dieu, a le dernier mot et mon Dieu, la prendre complètement en compte. Viens nous aider aussi, Père, à être remplis d'amour les uns envers les autres, à ne pas considérer la différence comme un frein, mon Dieu, mais comme une vraie richesse. Viens nous aider, Père. Amen. Alors voilà, aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir la parole sur ce sujet avec simplicité, honnêteté, pour comprendre ce que Dieu dit et marcher véritablement, du coup, dans la liberté de l'esprit. Cette liberté de l'esprit que Paul va présenter, qui est bien souvent éloignée de ce que nous on peut croire. Pas une liberté subjective fondée sur nos expériences ou nos traditions, mais sur la parole seule. Et mes frères et sœurs, je vous rappelle, cette parole de Dieu, elle est la seule autorité. Peu importe ce que l'on peut vivre, ce que l'on a pu vivre, si la parole dit quelque chose, on doit s'y soumettre, même si quelquefois elle remet en question peut-être nos manières complètes de fonctionner. Alors ce matin, et je vais commencer par cela, et je vous encourage, mes frères et sœurs, parce que ce matin on n'aura pas le temps. J'ai qu'une demi-heure ce matin, et je vous encourage à lire chez vous les chapitres de 1 Corinthiens, chapitre 13 et 14. On peut même prendre trois chapitres, 12, 13 et 14, dans leur intégralité, puisque en fait, si vous lisez ces chapitres, Paul est très très clair sur le sujet. Ce matin, je ne vais pas pouvoir tous les lire. Ça fait long, hein, trois chapitres. Et je pense que je vais vous perdre, et même moi je vais me perdre. Je vais surtout prendre du coup quelques extraits qui concentrent quelques passages clés, qui résument bien la pensée de Dieu et la pensée de Paul. Mais moi je vous encourage, mes frères et sœurs, ne vous contentez pas là de ces quelques versets que je vais vous citer. Je vous encourage chez vous cette semaine à lire ces trois chapitres, chapitres 12, 13 et 14, qui sont liés, et que Paul du coup il va parler aux Corinthiens dans ce sens, notamment par rapport au parler en langue. Premier point, le parler en langue est un vrai don spirituel, et pas un signe ultime de maturité. C'est 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 5, je pense que tu peux j'ai mis le texte. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétiser. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, encourage et réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais surtout que vous prophétisiez. Paul ici ne rejette pas le don des langues. C'est bien de commencer par cela. Il dit pas c'est pas bien, mais il le replace dans sa juste perspective. Le parler en langue est utile dans la communauté, dans l'Église, pour l'édification de chacun, mais du coup dans l'Église, elle n'a pas sa place. Puisque dans l'Église, ce n'est pas l'édification personnelle que l'on recherche, mais l'édification de tous. Et la prophétie, du coup, est prioritaire pour l'édification de toute l'Église. C'est ce que Paul Vassy va dire. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, encourage et réconforte. Mais Paul ne nie pas, hein. Il va dire juste après, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Bien souvent, on s'arrête à là, mais il y a la suite. Celui qui prophétise édifie l'Église. Et Paul, son propos, il est là. Quand Paul parle aux Corinthiens, il ne parle pas à des chrétiens individuels, il parle à une église. Et quelque part, il replace finalement comment on vit le parler en langue. Et ici, il va le dire durant tout le chapitre. Le parler en langue édifie du coup chaque chrétien qui le parle, mais du coup, c'est chez soi. Dans le cadre de la communauté chrétienne, on va le voir, il n'a pas sa place, et on verra pourquoi d'ailleurs. Versets 18 à 19, « Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Paul ici ne fait pas de l'humour, lui-même il parle en langue. « Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue. » Bon, il n'y a pas plus clair que ce qu'il vient de dire. Vous pourrez lire tout le contexte. Hein. Il va insister d'ailleurs dessus. Il va dire pourquoi. Hein. Il va expliquer pourquoi de manière très logique que celui qui parle en langue, finalement, personne ne le comprend puisqu'il parle à Dieu. Mais le but de l'église, ce n'est pas ici de que les autres ne nous comprennent pas. C'est que chacun puisse être édifié. Donc Paul ici ne dit pas que c'est pas bien ou que c'est mal. Paul ici replace dans le contexte. Et dans le contexte de la vie de l'église, quand les chrétiens se retrouvent, il s'agit ici de faire attention aux autres, de ne pas imposer sa spiritualité, mais de faire attention aux autres. Alors pourquoi des fois on a tendance à vouloir le faire? Et je reviens sur une des prédications que j'avais faites. Parce que mes frères et sœurs, on ne passe pas assez de temps personnel avec Dieu. Et que si on passe du temps personnel avec Dieu dans la semaine, c'est là le lieu où on peut parler en langue avec Dieu, s'édifier soi-même. Mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les seuls temps qu'on passe devant Dieu, c'est le dimanche matin. Et forcément, on a envie d'être soi-même, sauf que ce n'est pas le lieu. Le dimanche matin ne vient pas compenser notre manque en semaine. C'est une autre manière de vivre notre relation à Dieu. Ça va? Bon, je fais des rappels de ce que j'ai prêché il y a quelques semaines. Déjà, c'est un peu une synthèse. Alors du coup, une application assez concrète, quelques leçons que l'on peut tirer déjà de ce premier point, c'est qu'on peut vivre une vie pleine de l'esprit sans parler en langue. Le parler en langue ici ne définit pas quelqu'un qui vit pleinement la vie de l'esprit. La vraie maturité, c'est ce que Paul va annoncer, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, juste avant. Paul va dire que finalement, celui qui a tous les dons et qui n'a pas l'amour est une casserole qui résonne. Paul ici se moque des Corinthiens. En disant, vous parlez en langue, d'accord, mais parmi vous, il y a aussi de l'inceste, il y a de l'infidélité. Certains viennent nus à l'église, et vous me dites que vous êtes mature parce que vous parlez en langue, vous êtes que des casseroles qui résonnent. C'est ce que Paul dit, hein. Je paraphrase, mais c'est exactement ce qu'il fait. Et la maturité chrétienne ici, quelqu'un qui vit une vie remplie de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est concret. Elle passe par l'humilité, l'obéissance. C'est Galates. Galates chapitre 5, verset 22, et je vous inviterai aussi à le lire. Du coup, ce matin, si tu ne parles pas en langue, ne juge pas ou ne jalouse pas ceux qui ont ce don. Ce n'est pas le but. Au contraire, remercie Dieu pour ceux qui le parlent et merci Seigneur si cela les aide. Et si toi tu parles en langue, ne juge pas ceux qui ne l'ont pas. Ce n'est pas le fruit de l'esprit ici de juger l'un ou l'autre. Le Saint-Esprit agit en chacun comme il veut. Parce que ici, nous sommes chacun tous différents. Et Dieu nous appelle à respecter cette différence. Alors une question, est-ce qu'on peut avoir du coup ce don de parler en langue mais manquer d'amour, de douceur, de maîtrise de soi? Oui, tout à fait. Tout à fait, et puis peut-être même que vous en connaissiez, hein, des personnes qui, et moi dans mon, voilà, dans mon passif avec les églises, j'ai connu des frères et sœurs qui parlaient en langue et quelque part se réfugiaient dans un parler en langue pour ne pas changer, pour ne pas vivre de la sanctification. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Il y en a aussi qui parlent en langue et qui sont très bien, qui sont matures dans leur foi. Du coup, dans l'un comme dans l'autre, le parler en langue n'est pas un signe qui montre quelque part si celui qui le pratique vit quelque chose de fort ou pas. Je l'avais dit l'année dernière, le parler en langue, c'est pas une spécificité chrétienne. Dans beaucoup de religions, il y a un parler en langue. Bon, moi, je suis d'origine indienne. Avant que mes parents donnent leur vie à Dieu, ils parlaient en langue, hein, mais c'était des hindous. Ça n'avait rien à voir. Et pourtant, quand vous les entendiez, c'était pareil. Hein. Et dans leur hindouisme, ils étaient édifiés dans ce qu'ils vivaient. Et ça venait pas de Dieu. Celui qui vit une vie pleine de l'esprit, ça doit se voir. Avec l'amour de Dieu qui est déversé dans sa vie et le fruit. Alors, deux exemples. Deux exemples de personnes peut-être qui ne parlent pas en langue et qui étaient remplies de l'esprit, que je vais citer. Alors le premier, c'est Billy Graham. Vous connaissez Billy Graham? Billy Graham qui est du coup était un évangéliste avec un ministère puissant, on va pas indéniablement puissant, au niveau du ministère d'évangélisation, sa capacité à présenter l'amour de Dieu et le péché des hommes. ou même de la guérison, hein, évangélisation, voilà, assez forte. Et Billy Graham ne parlait pas en langue. Ce n'est pas quelqu'un qui parlait en langue, bien au contraire d'ailleurs. Alors sur le sujet, bon, moi je ne partage pas forcément sa position, puisqu'il était même trop tranché. Et c'était à l'époque des blessures de nos églises, où chacun se divisait sur ce sujet. Mais pourtant, Billy Graham, même si voilà, il ne parlait pas en langue, c'était quelqu'un rempli de l'esprit. Dans l'humilité, dans la patience, dans l'amour qu'il avait vis-à-vis des autres, on voyait quelqu'un qui était conduit par Dieu. Deuxième exemple, et là ça met tout le monde d'accord, c'est Jésus. Dans les évangiles, vous le verrez, hein, nulle part Jésus n'a jamais parlé en langue. Pourtant, Jésus, on va voir qu'il prie. On va voir, c'est écrit, hein, quand il manifeste ce qu'il vit. Mais nulle part il y a marqué qu'il parle en langue. Pourtant, il était rempli de l'esprit. Personne ne va dire que Jésus n'était pas rempli de l'esprit. Mais on le voyait par le fruit de l'esprit. Son amour, son obéissance au Père, sa compassion, son pardon. Face à des hommes, des femmes qui le rejetaient. Voilà le vrai modèle de maturité. Et à nous ici de pouvoir nous y accrocher. Deuxième point, c'est la différence qu'il y a entre l'édification personnelle et l'édification de l'Église. Je crois que j'ai mis les textes. Laïna, ouais, voilà. J'ai mis un autre texte juste avant que je n'ai pas mis, mais je vais vous le lire. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 4 à 5. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Et le verset 12, « Puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à en posséder abondamment pour l'édification de l'Église. » Dans l'Église, il ne s'agit pas d'exprimer son expérience personnelle, mais de se bénir mutuellement. C'est à la maison, dans sa vie de prière personnelle, que l'on vit pleinement sa foi. Dans l'Église, on est là pour se bénir les uns les autres, comme un corps. Et Paul va le rappeler au verset 26, « Que faire donc, frères et sœurs ? Lorsque vous vous assemblez, chacun peut avoir un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, et que tout se fasse pour l'édification de tous. » Et on peut le voir, même dans le livre des Actes, à la Pentecôte, les langues que les disciples parlaient étaient comprises de tout l'auditoire. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils vont être interpellés. Chaque auditeur entendait les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Résultat, beaucoup vont croire et vont donner leur vie à Dieu. Du coup, mes frères et sœurs, le culte n'est pas un club de développement personnel, mais un lieu d'édification mutuelle. Est-ce que ma spiritualité me pousse vers les autres ou me replie sur moi-même? Et je vous pose cette question. Est-ce que je cherche à être béni ou à bénir? À votre avis, est-ce que quand je viens à l'église, je dois chercher à être béni ou à bénir? C'est intéressant. Alors, en premier lieu, quand on vient à l'église, c'est pour bénir l'autre. De manière indirecte, forcément, qu'on sera béni en retour. Et du coup, oui, vous avez raison, ce sera les deux. Mais les deux ne sont pas placés à la même hauteur. Dans la Bible, en tout cas, notre exemple, c'est le Christ, mes frères et sœurs. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le dire, hein, je ne suis pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir. C'est Paul qui va rappeler que le Christ, Jésus, a donné sa vie pour bâtir l'Église, et il va rappeler ça dans Éphésiens. Comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré totalement pour elle. Et nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à bénir les autres, à ne pas regarder à soi. Parce que si on place les deux au même niveau, qu'est-ce qui va se passer? Si je ne suis pas béni, ou si j'attends pas ce que je... Voilà, j'attends des choses de la part des frères et sœurs et que je ne reçois pas, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais partir parce que j'estime que je ne suis pas content, je n'ai pas ce qu'il faut. Alors que le but, c'est de bénir les autres. Dans le corps, on l'a vu, hein, on est chacun des membres, la main ne va pas attendre que tous les autres membres soient à son service. Elle est au service des autres. Et c'est ensemble que ce corps, du coup, fonctionne. Avec comme image, finalement, le Christ, qui a été serviteur de tous, alors qu'il était Dieu. On ne peut pas faire, nous, autrement. Si on nous appelle chrétiens des petits Christ, nous devons être serviteurs les uns des autres. Alors bien sûr, et ça, peut-être que ceux qui le vivent, vous l'expérimentez déjà, quand on se bénit les autres, quand on cherche à les bénir, on est béni en retour. Parce que quand on donne, on reçoit. Mais le but, ce n'est pas de chercher à recevoir. Ça, c'est une mauvaise manière de penser. C'est une influence, mes frères et sœurs, du monde. Hein. La consommation. Je viens, j'attends de voir si ça correspond à ce que je veux, ce que je... Mais non. L'Église, elle n'est pas là pour cela. L'Église, c'est chacun de nous. Et quelque part, comment, dans ce que Dieu m'a, voilà, a mis sur mon cœur, je peux mettre ce don, ou les dons qu'il a mis dans mon cœur, à la disponibilité de tous. Dieu cherche des disciples qui pensent « qu'est-ce que je donne ?» pas juste « qu'est-ce que je reçois ?» Celui qui pense « qu'est-ce que je reçois ?» il ne tiendra pas. Ou dans sa maturité chrétienne, en tout cas, il a besoin d'avancer pour ressembler au Christ, qui, je rappelle, hein, il s'est livré totalement pour elle. Quand Paul parle de cela, il parle de l'Église, et l'Église, elle n'est pas parfaite. Hein. Vous le savez comme moi, mes frères et sœurs, on n'est pas parfait parce que chacun de nous, on y est déjà, on n'est pas parfait. Et pourtant, Dieu est parfait. Il aurait pu dire « j'attends que les hommes soient un peu parfaits avec moi ». Pas du tout. Et pourtant, il s'est livré totalement pour nous. Troisième point, le don des langues à voix haute doit être interprété dans l'Église pour être utile. 1 Corinthiens 14, versets 27 à 28. Que deux ou trois parlent en langue, Que deux ou trois parlent en langue, chacun à son tour, avec un interprète. Sinon, qu'ils se taisent dans l'Église et parlent à eux-mêmes et à Dieu. Ici, Paul n'interdit pas. Vous le verrez dans tout le chapitre, hein, Paul n'interdit pas des choses, il encadre, il pose un cadre. Il ne dit pas « éteignez l'esprit », mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Pas pour bloquer l'esprit, mais pour que tout le corps soit édifié. Parce qu'il sait qu'en chaque être humain, même si on est chrétien, on va chercher nos propres intérêts. Et que Dieu est un Dieu d'ordre. Et est un Dieu aussi qui veut que nous fonctionnons ensemble. Alors, de manière concrète, je n'aime pas trop être que dans la théorie, et voilà, là on a parlé un peu de théorie, mais de manière concrète, du coup, qu'est-ce qu'on fait, du coup? Que faire concrètement? Si tu as le don des langues, si tu parles en langue, du coup, exerce-le librement dans ta vie personnelle. Prie le Seigneur, que ce soit en français ou en langue, si quelque part ça t'édifie, et bien exerce-le chez toi. Là-dessus, il n'y a pas de limite, bien au contraire. Par contre, au culte, et même pas que lors du culte, lorsque tu te retrouves avec des frères et sœurs, tu peux prier en langue à voix basse, c'est le verset 28. Hein. Sinon qu'ils se taisent dans l'église et parlent à eux-mêmes et à Dieu. Dans l'église, finalement, c'est édifier les autres, et on est à Saumur, hein, ville française, du coup, pour édifier les autres, on parle, on prie en français. Si on était dans un autre pays, on serait une autre langue, mais il s'agit ici d'édifier chacun. Donc à voix haute, c'est en français que nous devons prier, pour édifier toute la communauté, et si je veux parler en langue, je peux le faire, mais du coup, sur ma chaise à voix basse, sans perturber ici le culte, sans que je m'approprie ici le culte. Alors il y a aussi ici quelque chose que Paul va parler, c'est lorsqu'il y a une interprétation. Il va parler ici des dons, parce qu'il y a le don des langues personnelles, mais il y a aussi la prophétie. Il va demander, voilà, finalement, si je parle en langue et finalement ça vient de Dieu et que je sens que Dieu veut parler, du coup il faut qu'il y ait une interprétation derrière. Alors je peux demander au Seigneur qui me donne l'interprétation, mais l'interprète, ça peut être toi-même ou un autre. Ça, tu ne le maîtrises pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons que quelqu'un prie en langue parce qu'il pense que Dieu veut parler, édifier l'assemblée, et qu'il n'y a pas d'interprétation derrière. Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est pas grave. Et c'est important ici parce que Paul, il est pastoral. Parce que si on commence à se dire que c'est grave, on va empêcher tout don. Comment on apprend à découvrir la voix de Dieu? C'est en l'exerçant. Donc s'il n'y a pas d'interprétation pour quelqu'un qui pense que c'est pas grave. Pour la première fois, c'est pas grave. Par contre, si c'est la même personne qui tous les dimanches fait la chose, bon, il y a un moment, c'est aussi comprendre que là, tu as besoin de discerner la voix de Dieu. Il ne s'agit pas du coup d'être dans la peur, dans la crainte, si ça arrive. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas d'interprétation, s'il y a une interprétation, bon bah là c'est bon, toute l'Église est bénie. Mais si ce n'est pas le cas, c'est une opportunité d'apprentissage, pas un échec. Une opportunité d'apprendre que j'ai cru entendre la voix de Dieu, mais finalement ce n'est pas Dieu qui a parlé puisqu'il n'y a pas eu d'interprétation. J'ai cru que Dieu me disait quelque chose, mais en fait non, c'est moi. Et apprendre de cela, c'est bien. Apprendre à discerner la voix de Dieu, mes frères et sœurs, c'est bien. Et pour nous, du coup, il faut que, je parle ici à Saumur, de la bienveillance. Pas de peur, pas de crainte, sinon on va braquer et puis surtout on va freiner l'esprit et surtout ce qu'il peut apporter au sein de nous. Paul, il va conclure en ce chapitre 14. Ne freinez pas l'esprit. Et on pourrait se dire, mais il dit ça alors que pendant 3 chapitres, il a freiné, on dirait, mais non, c'est pas du tout un frein. Il pose un cadre. Est-ce que c'est clair? Si c'est pas clair, dites-moi, je préfère me répéter, mes frères et sœurs, et vous encourager, plutôt que chacun, du coup, on soit dans la peur. En tant que chrétien, on ne doit pas avoir de peur. S'il y a l'humilité qui est là, imaginons que quelqu'un, du coup, parle en langue parce qu'il pense que Dieu veut parler, et qu'il n'y a pas d'interprétation, et ben ça permet au frère ou à la sœur d'apprendre pour la prochaine fois, et si jamais elle recommence, et ben du coup, voilà, des frères et sœurs, on ira le voir en disant, mais là, peut-être qu'il faut que tu apprennes à discerner la voix de Dieu. Et normalement, il n'y a pas de souci, ça permet aussi à chacun d'apprendre. Oui, Maggie ? Tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu, du coup Maggie disait voilà que celui qui, quand quelqu'un parle en langue, que les autres quelque part ne soient pas en phase passif. Et du coup aussi, prie le Seigneur, si Dieu donne l'interprétation, et bien aussi de pouvoir la donner. C'est important. Hein. On n'est pas du coup quand, dans notre église, je veux pas, et même dans toutes les églises, hein, il faut pas que quand quelqu'un parle en langue, on soit dans le côté, ah je fais le policier. On n'est pas le policier de Dieu ici. Et on doit du coup au contraire prier que le Seigneur parle. Et s'il n'y a pas derrière, ça permet à chacun d'apprendre. Paul va dire ceci quand même, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Du coup, quelqu'un parmi nous ne peut pas dire que ce qu'il a vient de Dieu si tous les autres pensent que ça ne vient pas de Dieu. Ici, c'est l'humilité dont il est question. Il faut beaucoup d'humilité. Moi, j'ai connu, et peut-être que vous en avez connu, hein, des personnes qui pensaient donner des paroles de Dieu et manquaient profondément d'humilité pour écouter. Quand on leur disait, peut-être que là, ça correspond pas en tout cas à ce que la Bible dit. Et là, et l'humilité, on vient de le dire, hein, ça fait partie du fruit de l'esprit. Ne soyons pas de cela. En résumé, alors j'ai mis un résumé, oui. Voilà, le parler en langue, du coup, est un don ici qui est biblique, bon et utile. Il édifie et il est surtout utile en privé. Dans l'Église, c'est aussi possible, mais ce n'est pas ici le même don dont il est question, puisqu'il doit être interprété pour édifier toute la communauté. Sinon, Paul, il est très clair, hein, j'ai remis ce texte, sinon qu'on se taise. Il ne passe pas par 4 chemins. Hein. Et s'il n'y a pas d'interprétation, et que l'on pense que quelque part Dieu ici voulait parler, ce n'est ni honteux, ni grave. On apprend ensemble, mes frères et sœurs, tant que la personne ici est humble et à l'écoute. Je vous rappelle, hein, Corinthiens chapitre 14, Paul va le dire dans ce même chapitre, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alors pour conclure, c'est intéressant comment Paul conclut tout ce chapitre, tous ces 3 chapitres même. Parce que Paul, il va faire quelque chose de particulier qu'il va presque rarement faire dans les autres épîtres. Et là, il va le faire. Il va terminer ce grand chapitre, ce grand discours qu'il a, au chapitre 14, versets 37 à 38, en disant ceci. « Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ne le reconnaît pas, qu'il ne soit pas reconnu. » Paul ici va faire quelque chose de très rare, qu'il ne fait jamais dans les autres épîtres d'ailleurs, même dans les autres situations. Il va affirmer, il va prendre son autorité d'apôtre pour affirmer quelque part qu'il pose une limite claire, que ce qu'il vient de dire, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas une option qu'il présente aux chrétiens, c'est un commandement. Et c'est très rare dans le Nouveau Testament que Paul d'ailleurs s'exprime comme cela, en disant « ce n'est pas une option, ce que je vous dis vient du Seigneur, si tu es vraiment conduit par l'Esprit, tu dois reconnaître tout ce que je viens de dire, sinon, c'est que tu n'es pas rempli de l'Esprit. » Alors je vous pose une question, pourquoi Paul met ici une telle fermeté ? On pourrait s'attendre qu'il soit plus ferme ou qu'il prenne son autorité d'apôtre quand il voit les Corinthiens faire n'importe quoi. Alors il va être ferme avec eux, mais sans prendre cette autorité d'apôtre. Pourquoi là il le fait ? Vous avez une idée ? Un Corinthiens chapitre 14, c'est le verset 37-38, donc c'est tout à la fin de ce chapitre 14. J'ai mis le texte, hein. Ah non, j'ai pas mis. Ah ouais, désolé. Je vous relis le texte. Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse ce que je vous écris, que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un ne le reconnaît pas, qu'il ne soit pas reconnu. Pourquoi Paul ici est ferme ? Aussi ferme, finalement, il prend même autorité de la part du Seigneur. Oui, et du coup, quelle est la qu'est-ce que ça impliquait du coup, Juliette ? Tu as raison. Oui, tout à fait, mais il y avait beaucoup de sujets, hein, où il y avait beaucoup d'ignorance et où Paul va reprendre, pourtant sans être aussi catégorique et ferme que cela. Alors je vous donne la réponse. La réponse, elle est très simple. Parce qu'on ne joue pas avec l'épouse du Christ, qui est l'Église. Si je parle en langue, si je ne parle pas en langue, imaginons que moi je ne parle pas en langue, et que parmi vous vous ne parlez pas en langue, et que je condamne ceux qui parlent en langue, je juge injustement. Je juge le corps du Christ. Qui je suis pour juger l'épouse du Christ ? Des fois, nous, l'Église, on pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Hein. C'est pas le cas. Et si je parle en langue sans souci des autres, et, ben, je fais la même chose, je méprise l'Église. Si je parle en langue et que je pense que finalement, ah mais je peux faire ce que je veux, c'est pas grave, moi je sais ce que Dieu me dit et puis je parle, mais je méprise l'Église. Et du coup, dans ces deux cas, je fais du tort au corps du Christ. Et malheureusement, mes frères et sœurs, dans l'histoire de l'Église, les chrétiens se sont beaucoup trop divisés sur ce sujet. Par manque de compassion, par peur. Et la peur, ce n'est pas un fruit de l'esprit. C'est au contraire de reconnaître chez l'autre que s'il y a ce don, et ben de remercier Dieu pour cela. Et que le frère ou la sœur puisse avancer, et inversement. Ici, Paul ne fait pas une menace, mais un appel à l'humilité et à l'obéissance. Il revient du coup au contexte de l'époque, les Corinthiens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Paul sait très bien que certains à Corinthe ne voudront pas l'écouter. Parce qu'ils se disent spirituels, ils se disent remplis de l'esprit, et ils refusent de se soumettre à l'ordre que Dieu veut dans l'Église. Alors Paul rappelle que ce qu'il écrit, ce n'est pas son opinion, c'est un commandement de Dieu. Commandement du Seigneur, et que si quelqu'un ne veut pas le reconnaître, il montre qu'il ne doit pas être reconnu comme spirituel. Paul le considère du coup comme quelqu'un qui est limite un païen, parce qu'il méprise l'épouse du Christ. Ça, il va loin. Hein. C'est fort ici ce qu'il annonce, mais c'est nécessaire. Car être rempli de l'esprit, ce n'est pas faire du bruit, ou se taire, ou s'élever au-dessus des autres, c'est écouter humblement la parole de Dieu. Et nous aujourd'hui, mes frères et sœurs, ne soyons pas des Corinthiens, n'ayons pas le cœur endurci. À la voix de l'Esprit, et je nous pose cette question, est-ce que nous avons ici l'humilité d'écouter la voix du Seigneur ? Si on l'a, cette humilité, Dieu nous utilisera. Pour les autres, mais aussi, et je crois même avant tout, ça commence dans l'Église. Sans crainte ni peur, pour vivre quelque part les dons dans l'amour, dans l'ordre, dans l'édification, comme Christ le veut. Et que Christ, que le Saint-Esprit nous donne cette liberté, un cœur soumis à la parole pour que notre Église vive la maturité de la vie de l'Esprit, avec bienveillance et respect de tous les dons. Amen. N'ayons pas peur de l'inconnu, mais lâchons prise. Les uns envers les autres, ne nous comparons pas. Comme je viens de le dire ce matin, celui qui parle en langue n'est pas supérieur aux autres. comme inversement, mais encourageons-nous les uns et les autres.